Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La conversation, relations et Urbania. Au programme, l'art au secours des enfants ukrainiens. L'état de grâce et la vie d'adulte. Bonne écoute.
L'art au secours des enfants ukrainiens. Un texte d'Alban Buriel paru le 28 avril 2022 dans le magazine La Conversation. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, 4,3 millions d'enfants ont été déplacés, soit plus de la moitié de la population enfantine du pays, estimée à 7,5 millions, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ce chiffre comprend plus de 1,8 million d'enfants réfugiés qui ont franchi les frontières pour s'exiler dans les pays voisins et 2,5 millions qui sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. C'est l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions d'entre eux sont soumis à d'importants stress et vivent des traumatismes liés à la guerre. Pour les aider à surmonter cette période tragique de leur vie, les pratiques artistiques ont fait leurs preuves auprès de jeunes réfugiés à travers le monde. Candidate au doctorat en éducation et membre du CREAD, Centre de recherche sur l'enseignement, les apprentissages et la didactique, je suis spécialiste de l'action humanitaire, des pratiques artistiques pour favoriser le bien-être et de l'éducation en situation d'urgence et en contexte d'adversité. Je suis aussi conseillère et formatrice auprès de travailleurs humanitaires. Les pratiques artistiques, une réponse humanitaire. L'art devient ainsi, à travers l'action humanitaire, une manière de préserver la vie dans la dignité et de maintenir des valeurs fondamentales telles que la coopération et la solidarité. L'art est utilisé tant dans la protection de l'enfance, dans l'éducation, que dans le soutien psychologique, notamment au travers de l'art-thérapie. La reconnaissance des nombreux avantages et de la pertinence de l'utilisation des pratiques artistiques par les ONG lors d'urgences humanitaires est unanime. Des activités telles que le dessin, la danse, le chant, le théâtre et diverses formes d'art-thérapie aident les enfants à surmonter leurs expériences et certains des traumatismes de la guerre en les extériorisant. De nombreuses études ont été menées sur l'amélioration du bien-être des enfants à travers les activités artistiques, et notamment pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Selon les types de programmes, l'art peut contribuer à soulager les symptômes de l'anxiété, distraire de pensées négatives et peut aider à exprimer des sentiments douloureux ou difficiles que les enfants ont du mal à mettre en mots. Après un mois de guerre, plus de 733 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits. La guerre en Ukraine a évidemment un impact sur l'ensemble du système scolaire et compromet le droit à l'éducation. Ne pouvant plus aller à l'école, les enfants n'ont plus de routine ni de sentiment de sécurité. Des activités artistiques structurées, significatives et créatives dans les écoles ou les espaces d'apprentissage non formels améliorent leur bien-être émotionnel et comportemental. Le dessin comme témoignage pour porter les voix des enfants. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plusieurs médias ont décidé de faire entendre les voix des enfants afin d'illustrer les réalités de la guerre. Ainsi, le Washington Post, The Guardian ou encore Euromaidan Express présentent des dessins d'enfants déplacés et réfugiés. Ils dessinent leur soutien aux forces ukrainiennes et les horreurs qu'ils ont vues, leur départ du foyer, le voyage en train et les séparations douloureuses à la frontière. Les activités artistiques dans le quotidien des enfants. Dans de nombreuses régions d'Ukraine, des parents se regroupent et organisent des activités artistiques pour leurs enfants. Par exemple, des volontaires de l'ensemble de chant et de danse Sonechko à Lviv ont organisé plusieurs séances d'art pour des enfants. Des bénévoles soutenus par l'UNICEF mettent en place des espaces consacrés au dessin d'enfants dans les stations de métro. Des enseignants et des psychologues y travaillent quotidiennement avec les jeunes dans un cadre formel ou pas. Des initiatives liées à la santé mentale et aux services psychosociaux, MHPSS, de l'ONG Proliska, soutenue par l'UNICEF, visent à fournir du matériel créatif et artistique afin d'équiper les espaces dédiés aux enfants dans 3 stations de métro de Kharkiv. L'ONG War Child Holland forme des organisations ukrainiennes au premier secours psychologique et au service de santé mentale afin de créer des espaces de sécurité pour les réfugiés. Des projets comme YouCreate œuvrent au renforcement de la santé mentale des jeunes grâce à des activités créatives. L'initiative mobilise des adolescents de l'Est de l'Ukraine qui conçoivent et mettent en œuvre des projets artistiques dans leur communauté. L'ONG ukrainienne Voices of Children propose aussi des ateliers d'art-thérapie. Il s'agit d'aider les enfants à décrire leurs émotions, leurs expériences et leurs peurs à travers les arts visuels. Le projet comprend une dizaine de séances d'art-thérapie une ou deux fois par semaine. Il combine le travail de groupe et le travail individuel où les enfants libèrent leurs émotions et leurs sentiments complexes sur le passé, le présent difficile et le futur incertain. Ces interventions d'urgence à travers les pratiques artistiques sont à encourager et à structurer davantage. Il est essentiel d'en comprendre les différents usages et d'en évaluer les effets et les impacts sur les enfants. C'était « L'art au secours des enfants ukrainiens », un texte d'Alban Buriel paru le 28 avril 2022 dans le magazine « La Conversation ».
Grâce, par Sylvie Drapeau, paru à l'automne 2021 dans la revue Relations. Que l'on soit artiste ou spectateur, les quêtes de transcendance qui nous animent peuvent s'incarner dans l'expérience du sublime et du sacré portée par l'art. Entre angoisse et doux vertige, ce processus nous révèle à nous-mêmes et nous lie aux autres dans le partage. Soir de première, 19h50. Je quitte la loge comme on part en guerre. Je traverse la scène derrière le rideau fermé et me dirige en ligne droite vers la coulisse. Je vais rejoindre mon ami Samuel qui est déjà prêt pour son entrée en scène. C'est lui qui interprétera le rôle de mon père dans la pièce. Il s'agit d'un soir de première un peu particulier. Nous nous serrons très fort dans les bras l'un de l'autre, comme s'il était possible que nous n'en sortions pas vivants. Puis, après avoir échangé un fervent « merde », nous nous séparons, chacun dans son couloir, un rideau de velours noir entre nous. Le retour à la solitude amplifie la rumeur de la salle. Nous sommes fébriles, vulnérables à la limite du supportable, comme si nous subissions une torture. Ça a toujours été comme ça. À ce moment, il me semble que faire le métier de comédienne n'a aucun sens. Qui voudrait se mettre dans de pareils états, à moins d'être masochiste? Je me demande même ce que je fais là, comme s'il y avait erreur sur la personne. Le trac est un animal féroce et c'est l'ego qui le tient en laisse, qui le contrôle. C'est lui qui dit que je n'y arriverai pas, que c'est trop grand pour moi, que je ne suis pas à la hauteur du privilège tant convoité de passer du temps dans la lumière. Étrange faveur, d'ailleurs, qui vous laisse presque pour morte dans ces quelques minutes avant le lever du rideau. Assise dans la coulisse, je me concentre sur ma respiration, dans le but de faire taire mon mental déchaîné, puis j'aperçois le faisceau d'une lampe de poche de l'autre côté de la scène qui s'arrête au centre de l'espace sur un X marqué au sol. Ça y est, nous y sommes, le voilà, le 5 minutes que je désirais et que j'appréhendais à la fois. Je me lève et marche vers le halo. En posant la pointe de mon pied sur le X, je m'immobilise et serre trop fort la main du technicien qui me murmure gentiment « Merde ». Il éteint la lampe et s'éloigne. Je reste seul dans le noir tout le temps que dure l'interminable 5 minutes qui se prolongera s'il y a des retardataires. J'entends les gens du public qui jasent, qui rient parfois. Ils sont décontractés, les chanceux, et je leur envie cette nonchalance. J'attends derrière le rideau fermé. Mon cœur bat très vite. Je tente de revenir à ma respiration. Jusque-là, j'avais joué la vie des autres, la vie de personnages plus grands que nature, servant des histoires porteuses de sens, souvent écrites par des génies, par des auteurs qui avaient été traversés par la grâce. Or, je m'apprêtais ce soir-là à jouer l'histoire de ma famille, l'histoire des tragédies qui ont ponctué notre vie. Je m'apprêtais à jouer la pièce « Fleuve » que j'ai conçue à partir des 4 romans que j'ai écrits et dans lesquels je m'adresse, avec mes simples mots, à nos morts, frères, sœurs et mères. J'étais sur le point de révéler qu'une actrice est un territoire occupé et que c'est à partir de ce territoire, déjà chargé de blessures, que les personnages peuvent s'incarner. J'allais révéler que la souffrance réelle est la matière première des personnages tragiques, ces souffrants hors normes, ces archétypes qui sont miroirs de nos folies, et que c'est ce que j'avais fait toute ma carrière. Leur prêter ma vie. J'allais leur dévoiler que les acteurs ne se cachent pas derrière les personnages, qu'ils se révèlent au contraire à travers eux, se prêtant ainsi au jeu de la catharsis. À cause du caractère extrêmement personnel de la pièce, le trac me semblait décuplé. N'était-ce pas un peu indécent, toute cette vérité exposée? Je remettais tout en question derrière le rideau fermé. Nous étions à quoi? 3 minutes peut-être avant le début du spectacle? Je savais pourtant, à tête reposée, qu'écrire sur ma famille, c'était écrire sur l'humanité, que des petites filles perdues, il y en avait plein la salle tous les soirs, et autant de petits garçons en déroute. N'était-ce pas pour cette raison que j'allais moi-même au théâtre, que j'aimais tant prendre le temps de m'asseoir devant un tableau au musée, que je fermais religieusement les yeux au concert, ou que je tournais avec fébrilité la première page d'un nouveau livre? Ne sommes-nous pas tous en quête d'un partage le plus vrai possible lorsque nous nous tournons vers l'art? Ne sommes-nous pas toutes et tous en quête de sens? Qu'est-ce donc que le trac? Peut-être la peur de ne pas pouvoir atteindre cet état de grâce tant célébré, tant recherché. Car il me semble que plus ou moins consciemment, nous cherchons une occasion d'éveil par l'art. Que je sois actrice ou spectatrice, à mesure que les années passent, j'arrive au théâtre assoiffée de sens, plus que de sensations, même si l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que nous voulons être révélés à nous-mêmes, de tous bords, tous côtés. À cette part sans forme, intemporelle, éternelle. Rien que ça. Je sais. De là le trac. Les artistes se sentent minuscules face au défi. Je commence à comprendre que notre volonté n'y est pour rien. Nous ne sommes que des passeurs. L'état de grâce exige une disponibilité absolue, au-delà des apparences, même s'il passe par les apparences. Ça tient du paradoxe. Et si je survis aux palpitations de mon cœur, chaque soir, si je peux encore et encore chercher à communier, à rejoindre, à être cette passeuse vers ce qui me dépasse, vers ce que j'ignore, dans cette ferveur toujours intacte, c'est parce que je sais qu'il y aura sans cesse des êtres qui se reconnaîtront, pour qui nos brèches exposées permettront la rencontre intime et le pardon ultime. Être dans la salle ou sur scène, c'est du pareil au même, c'est chercher à se rencontrer, et c'est dans cette communion qu'advient l'état de grâce. Ce soir-là, je m'en allais dire au public que la tragédie des personnages se superpose à celle de la vie ordinaire, qui n'a rien d'ordinaire, si vous voulez mon avis. Choisir d'être actrice, c'était choisir d'entrer dans la lumière pourtant. Le tragique me traverse, comme le fleuve traverse la terre qui nous a vu naître. J'allais leur dire « Je suis une arracheuse d'ombre ». J'allais leur dire la vérité. Transcender la souffrance, la dépasser pour voir, sentir, percevoir ce qu'il y a juste derrière, à un voile de l'enfer, dans le présent de la représentation, dans cette verticalité. Je voulais leur parler de ça. Toujours derrière le rideau, je me dis « J'entre au théâtre comme j'entrais à l'église, enfant, dans un désir de communion. » Je me dis « Il ne faut pas que j'oublie que je ne suis pas là pour avoir du talent. » C'est fou tout ce qu'il y a dans un 5 minutes. Une vie. La lumière baisse tranquillement dans la salle. Ça y est, nous y sommes. Et je ne suis pas morte. J'essaierai encore une fois. Le rideau monte tranquillement. Le public fait silence. Nous chercherons ensemble. Je m'en vais à leur rencontre, en tout cas. Comme chaque fois, je murmure « À la grâce de Dieu ». Je reviens à mon souffle et j'entre dans la lumière. C'était « L'état de grâce » par Sylvie Drapeau, paru à l'automne 2021 dans la revue Relations. La vie d'adulte. Un texte de Marie-Hélène Racine Lacroix, paru le 28 janvier 2028 dans le magazine Urbania. Quand j'étais petite, J'avais une image très claire de ce que ma vie de grande personne allait être. J'allais devenir enseignante, être mariée à un homme et avoir 3 enfants, un chien et un chat. J'allais vivre dans une maison de banlieue avec une cour arrière au gazon bien vert, décorée d'une piscine et d'une balançoire pour les petits. J'allais avoir un compte conjoint, un budget bien suivi et une Toyota Sienna beige pour aller au Costco. Récemment, j'ai eu 28 ans. Pour moi, mon anniversaire est toujours un moment d'émotion et de réflexion. D'abord, mon côté insécure adore ce rappel annuel que non, mes amis, amies, ne me haïssent pas tous, toutes, secrètement. Ensuite, je vois cette date comme un checkpoint, une autre année de passé. Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi, mais cette année, l'âge me semble important. J'ai l'impression que si je m'étais dirigée vers la vie qu'imaginait la jeune Marie-Hélène, 28 ans serait l'âge où j'y serais à peu près arrivée. À 28 ans, on est censé être un vrai adulte, non? Pourtant, dans la vraie vie, j'ai depuis réalisé que je ne marierai jamais un homme, faute d'attirance envers eux. Je me suis dirigée vers les arts, je suis pigiste et je vis dans un petit appartement de Montréal sans cour arrière. Je suis incapable de calculer un budget et blâme le capitalisme pour tous mes problèmes de toute façon. À part Amos d'Aragon, mon chat adoré, je suis très loin de cette image que j'avais de la vie d'adulte. Je ne pourrais pas en être plus heureuse. J'étais une enfant anxieuse. Bien que j'étais déjà fascinée par l'écriture, le dessin et l'humour, je me censurais moi-même dans mes fantasmes de carrière d'artiste. Je savais que les bédéistes, les auteurs et autrices et les humoristes existaient, mais je me disais que ce n'était pas un but réaliste à avoir. J'étais obsédée à l'idée d'être parfaite pour correspondre aux attentes envers moi, bien qu'elles étaient complètement imaginées. Je me disais que si je suivais un chemin conforme à mes modèles, mes parents et mes proches n'allaient jamais avoir à s'inquiéter pour moi et je n'allais déranger personne. J'allais être normale. Je me suis toujours sentie différente, sans pouvoir l'articuler ou en comprendre les raisons. J'ai vite développé un complexe envers mes idées bizarres et appris à m'adapter à un groupe pour qu'il ne me trouve pas étrange ou malaisante, bien que souvent sans succès. Quand mes amies parlaient des garçons sur qui elles avaient des kicks, je ne comprenais jamais leur intérêt. J'ai appris à choisir automatiquement un garçon qui remplirait ce rôle, encore une fois pour contrer cette peur d'être différente. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'allais être grande, je répondais que j'allais être enseignante comme mes parents. C'est une réponse que les gens trouvaient satisfaisante, même adorable. Pourtant, j'inventais déjà plein d'histoires et j'aimais faire rire. Je rêvais déjà d'avoir le temps pour faire de la bande dessinée dans mes temps libres de grande personne. Même en grandissant, j'ai toujours justifié mes choix avec ce désir de perfection. Au secondaire, j'ai choisi d'aller au programme d'éducation internationale au lieu d'en arts plastiques parce que ça me semblait être la bonne chose à faire. J'étais cette personne insupportable qui capotait quand elle avait moins qu'un A. Mon côté créatif ressortait occasionnellement, comme la fois où je m'étais dit que c'était une bonne idée de mettre un tutu mauve à l'école. Mais les regards moqueurs de mes pères étaient assez pour me renvoyer au plus profond de mon désir d'anonymat. Au cégep, Je me disais que les arts et lettres allaient me servir en éducation. Même quand le naturel est revenu au galop, comme un cheval rebelle à sa préadolescente unique dans un film équestre et que je suis allée en bande dessinée à l'université, j'essayais de justifier mon choix à mes parents qui me supportaient déjà pleinement. Quand je me suis inscrite à l'école de l'humour, ma chère mère a dû me dire d'arrêter de me justifier. Il y a quelques semaines, ma petite sœur me disait que j'étais courageuse de m'être lancée dans une carrière créative. Je lui ai répondu que je n'avais pas de mérite, que c'était ça ou rien. Effectivement, pour l'avoir essayé, je trouve les 9-to-5 de ce monde beaucoup plus courageux que moi. Malgré mes insécurités qui sont toujours présentes, sous forme d'un énorme sentiment d'imposteur, je gère beaucoup mieux mon anxiété que du haut de mes 8 ans. Je me sens bien dans ma peau, à ma place et choyée. Je trouve drôle de voir passer des articles, surtout en anglais, décrivant ma génération comme des esprits libres, jonglant avec différents emplois et préférant la vie nomade de locataire. J'ai beau donner le crédit à ma personnalité, la société a joué un grand rôle dans la vie où j'ai abouti. Les maisons sont hors de prix et la sécurité d'emploi semble être un mythe de l'époque de nos grands-parents. Dans le fond, je ne sais même pas si j'aurais pu atteindre la vie que je m'imaginais il y a 20 ans. Même si je suis le contraire de ce qu'elle s'imaginait, je pense que la petite Marie-Hélène me trouverait très cool. C'est tout ce qui m'importe. La vie d'adulte, un texte de Marie-Hélène Racine Lacroix, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Zarpin à la présentation et au montage.